Nous travaillons dans l'école de la République.
Et on remercie vraiment les enseignants.
L'entrée de l'enfant dans l'école ne règle pas tout.
Sans les parents, on peut rien faire.
On est, je crois, sur la bonne voie.
Ça vous concerne, le magazine de l'éducation. C'est avec Joanne, la troisième semaine du mois, le mardi à 10h15, le mercredi à 19h15, le jeudi à 15h et le dimanche à 13h sur Fréquencier.
L'école, nous le savons, peut encore mieux faire.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Ça vous concerne, l'émission qui vous parle d'éducation. Ce mois-ci, abordons la question de l'apprentissage et de la formation professionnelle en s'intéressant plus particulièrement aux dispositifs mis en place par la région Pays de la Loire et à leurs enjeux. Et puisque vous êtes des auditeurs assidus, bien évidemment, de Fréquencier, que vous êtes attentifs, fidèles et que vous avez une très très bonne mémoire, vous avez forcément suivi l'actualité du début du mois concernant les Olympiades des métiers. Rappelez-vous, début février, 55 jeunes de la région Pays de la Loire participaient au final national des Olympiades des métiers à Paris. Et parmi eux, 13 jeunes Ligériens ont réussi à décrocher leur place au final international qui se déroule du 5 au 8 octobre 2011 à Londres. Et les résultats des Pays de la Loire sont plus que satisfaisants. Je rappelle 10 médailles d'or, dont deux Sartois d'ailleurs, qu'on peut noter, Paul Nguyen et Paul Janvier, 6 médailles d'argent et 4 médailles de bronze, ce qui place la région Pays de la Loire en tête des régions françaises pour la deuxième année consécutive. Écoutons tout de suite la réaction de Sylvie Esland, conseillère régionale en charge de l'apprentissage et de la formation professionnelle, qui répondait aux questions de Nathalie au lendemain des résultats des Olympiades des métiers.
Madame Esland, j'imagine que la satisfaction, elle est plus que grande.
Oh, tout à fait, oui, ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. Bon, on est fiers de ces jeunes, hein, parce que ces jeunes, ils ont tout donné. Il n'y avait qu'à voir leur cerne à la fin de la compétition. Ils étaient exténués, ils avaient tout donné. Et puis aussi une satisfaction pour l'appareil de formation des Pays de la Loire et pour les entreprises, parce que ces jeunes-là, ils sont formés en Pays de la Loire. Ils ont été accompagnés par leurs formateurs, leurs enseignants, puisqu'il y avait des jeunes des lycées, des jeunes des jeunes apprentis, des salariés même aussi, et puis des jeunes en contrat de professionnalisation. Il y avait toutes les catégories de jeunes en formation professionnelle que l'on peut imaginer. Et puis, une satisfaction aussi pour les entreprises, parce que c'est elles qui ont aussi beaucoup accompagné les jeunes. Et puis pour tous les bénévoles, parce qu'il y a énormément de bénévoles dans cette histoire des Olympiades. Plus de 100 bénévoles pour les Pays de la Loire qui étaient là à Paris.
C'est pour ça que la région investit autant dans la jeunesse et dans son avenir, puisque ce sont, vous le disiez, les salariés de demain, ce sont les entrepreneurs de demain.
Tout à fait, c'est l'avenir de notre territoire en termes de qualification. Donc je crois que effectivement, je crois que c'est à valoriser. Alors nous, je vous l'ai déjà dit, mais nous, en fait, les Olympiades, pour nous, c'est une vitrine des métiers. Et pour la région Île-de-France qui organisait, c'était un formidable salon des métiers avec des métiers en live. Et je crois que ça a permetté à d'autres jeunes, le public, et bien c'était 20 ou 30 000 jeunes, je ne sais pas exactement combien il y a eu de spectateurs à Paris, mais des jeunes qui sont venus voir d'autres jeunes et puis avec intégré un salon des métiers de la formation qui permettait d'avoir les informations en direct sur les parcours à faire. Et je crois que c'est vraiment ça qu'on veut faire et c'est pour ça qu'on investit, parce que déjà on est fiers de notre appareil de formation, on investit beaucoup en qualité, on a beaucoup travaillé avec les centres de formation sur la qualité des formations, sur l'accompagnement des jeunes, sur individualiser les parcours des jeunes de façon à ce que chacun puisse apprendre à son pas. Et donc ça porte ses fruits. Et puis la motivation, c'est aussi une histoire d'équipe. C'était une belle équipe avec des jeunes, si je peux dire. Moyenne d'âge tournée autour de 19 ans, et ce qui est quand même assez remarquable, parce que des jeunes qui ont quand même peu d'expérience professionnelle, 19-20 ans. Je pense que nos dernières équipes étaient un tout petit peu plus âgées, mais des jeunes enthousiastes, des jeunes qui vivent à fond leur vie, qui sont pas du tout des jeunes matheux ou des jeunes qui s'amusent pas. Ils ont explosé là au moment des résultats et tous les jeunes de France étaient dans cet état-là. Et je trouve que ça donne vraiment une image de la jeunesse qui est assez extraordinaire et qui se passionne pour les métiers. C'est pas forcément évident à défendre quand vous êtes avec vos copains. Non, je sors pas parce que je m'entraîne pour être pour mon épreuve d'ébéniste ou de bijouterie. Il faut avoir une certaine volonté, et là, c'est l'accomplissement, c'est quand même une bonne chose.
Voilà, c'était donc Sylvie Esland au micro de Nathalie le 8 février dernier. Vous l'avez entendu, la région Pays de la Loire s'investit largement en faveur de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Et pour en parler, nous sommes à nouveau en compagnie de Sylvie Esland. Bonjour Madame Eslan, vous revoici à nouveau sur antenne de Fréquence Lyé, ça devient une habitude maintenant.
Bonjour à vous.
Bonjour, revenons sur ces commentaires que l'on vient d'entendre en élargissant le sujet à l'apprentissage et la formation professionnelle en général, hors contexte des Olympiades des métiers. Vous avez répondu dans le document sonore précédent à la question « Pourquoi la région s'investit autant ?» Peut-être maintenant on peut essayer de revenir sur la façon dont la région s'investit en faveur de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Vous parliez du travail sur la qualité des formations, l'accompagnement des jeunes, l'individualisation des parcours des jeunes. Qu'est-ce qui a été entrepris concrètement qu'on pourrait essayer d'expliquer de manière simplifiée aux auditeurs pour qu'ils comprennent de quelle façon la région s'investit en faveur de l'apprentissage et de la formation professionnelle ?
C'est vrai que dans le cadre de la formation professionnelle en lycée, professionnel, on reste dans le cadre scolaire classique, hein, avec le souci d'avoir amélioré l'outil de travail des jeunes et des professeurs dans les lycées. On a fait de gros investissements dans les lycées professionnels pour que l'outil de travail soit vraiment des jeunes, soit vraiment conforme à ce qu'on trouve sur le marché du travail. Donc là, il y a eu pas mal d'actions faites, d'accompagnement de ces investissements. Sur la partie apprentissage, les régions, on a travaillé depuis plus de 10 ans maintenant sur un mode pédagogique qui soit très adapté à la réussite des jeunes en apprentissage. Avec l'idée de mettre le jeune au centre du projet. Donc c'est le parcours du jeune, il se cale par rapport à ses compétences quand il rentre au CFA et ce qu'on va lui demander à la sortie. Donc un jeune qui a, par exemple, on a des jeunes qui sont en université, qui arrêtent un cursus universitaire pour, par exemple, faire CAP de tailleur de pierre, un bac pro en chaudronnerie, etc. Donc ces jeunes-là, par exemple, en matière générale, ils n'ont pas besoin d'avoir les cours. Par contre, ils ont besoin de beaucoup plus d'appui technique. Donc on peut moduler, c'est là qu'on prend le mot modulation et individualisation. Donc on module un parcours pour ce jeune qui soit exactement calé à ses besoins.
Mais ça reste, quand on dit individualisation, ça reste quand même en collectif, j'imagine, parce qu'on peut pas y avoir un formateur par élève.
Non, du tout. Mais par contre, on a mis en place et financé des centres de ressources. Donc pratiquement, parce que la démarche est encore en cours, pratiquement chaque centre de formation a une plateforme qu'on appelle un centre de ressources dans laquelle l'élève peut être accompagné et travaille en autonomie par des moyens informatiques éventuellement, mais aussi par un accompagnement pas à pas avec un prof, avec un formateur. Si vous voulez. Donc là, c'est une façon de sortir du groupe et de le faire avancer en autonomie selon son niveau et le niveau demandé. Et ça marche aussi pour des jeunes en grande difficulté, par exemple, de lecture, d'écriture et de calcul. Donc on peut leur faire un parcours aménagé en renforçant ses connaissances de base grâce à ces centres de sources et à cet accompagnement personnalisé.
Comme un parcours à la carte en fonction des besoins de chacun.
Voilà. Alors, il n'empêche que le jeune garde quand même des cours, hein, sans problème. Il est en groupe classe aussi. Mais par contre, ce temps d'individualisation, ça lui permet d'aller plus loin et puis dans de meilleures conditions.
Et quand on parle de formation professionnelle, justement, on ne parle pas que de la formation des jeunes aussi, puisqu'il y a le cadre formation initiale.
Bien sûr.
Mais il y a aussi la formation des adultes.
Alors, formation des adultes, ça va suivre à peu près le même chemin, puisqu'on a mis en place ce qu'on appelle la modularisation. Ça, c'est un peu différent. Enfin, le terme est un petit peu le même, mais si vous voulez, dans la formation d'adultes, on a imaginé de découper les formations en briques de compétences, si vous voulez. Chaque formation, elle est formée de X briques de compétences. Et selon le besoin de la personne, il prend telle ou telle brique pour pouvoir aller jusqu'au bout de sa formation. Toujours avec une idée d'un centre de ressources et un accompagnement individualisé.
En région Pays de la Loire, ça représente combien l'un et l'autre ?
Alors, formation initiale, il y a 53 000 lycéens professionnels. Il y a 28 000 apprentis. Enfin, 29 194 exactement.
Très précisément.
Je vais vous donner ça quand même bien comme il faut. Et en termes de formation professionnelle, en général, il y a environ 30 000 stagiaires de formation professionnelle. Alors, tout niveau confondu, hein, c'est très vaste la formation professionnelle continue, des jeunes, des adultes, etc.
Ouais, donc ça représente quand même pas mal de personnes.
Ah oui. Ça fait du monde et c'est aussi nécessaire d'avoir un pilote et une animation régionale. C'est pour ça que nous, on a investi beaucoup pour arriver à cette qualité de formation qui n'est pas encore, il faut aussi balayer devant notre porte, elle n'est pas encore totalement généralisée, mais quasi, je pense, à 70% sur les CFA. Il a fallu mettre pas mal d'argent en termes d'ingénierie, d'accompagnement des dispositifs, accompagnement de l'évolution, de la formation des formateurs, etc. Bon, il y a eu tout un travail de fait, mais avec une très très grande participation. Je crois que c'est ce qui caractérise les Pays de la Loire, c'est que les centres de formation d'apprentis sont très très participatifs, ainsi que les organismes de formation. Ils ont adhéré très vite au projet, ils ont beaucoup travaillé, et je trouve que c'est faut le saluer de temps en temps.
On va rebondir là sur ce que vous étiez en train de dire juste avant, en se basant sur un rapport de la Cour des comptes daté d'octobre 2008, que vous devez connaître, qui s'appelait « La formation professionnelle tout au long de la vie ». Un rapport qui mettait en lumière des limites, justement, à l'apprentissage et à la formation professionnelle sur le territoire national. Et qui parlait même d'inefficacité globale du système, en pointant les raisons suivantes. Les formations sont largement inadaptées aux besoins des individus, des entreprises, des financements abondants mais insuffisamment mutualisés, un manque de stratégie globale. Alors c'est assez intéressant quand justement on peut ramener ça à tout ce qui est mis en place en région Pays de la Loire. Qu'est-ce que vous pensez déjà des conclusions de ce rapport?
Ouais. Alors le rapport englobait la formation en entreprise ainsi que que la formation continue pour les demandeurs d'emploi.
Voilà, exactement, ouais.
Donc là, il faut faire une grosse part parce que le plus gros financeur de formation, ce sont quand même les entreprises, hein. Nous, j'ai plus la proportion en tête, mais on intervient, on est beaucoup plus petits joueurs en matériel en matière de formation continue, hein. C'est vraiment les entreprises, la grosse part de la formation, c'est les entreprises. Et en fait, ce qui était dit sur la formation en entreprise, c'est qu'elle profitait aux plus qualifiés et qu'elle ne jouait pas son rôle d'ascenseur social aussi dans l'entreprise.
Ouais, voilà, exactement, ouais.
Les plus qualifiés et les plus diplômés. Hein. Nous, la formation, elle est plus accessible, en fait, puisqu'elle est, dédiée à tout niveau. Alors, ce qu'on s'est attaché aussi à faire, c'est à ce que les gens puissent faire des parcours de formation. C'est-à-dire que assurer à quelqu'un qui rentre, un jeune par exemple, qui rentre après être sorti sans qualification du système scolaire, il rentre dans une formation dite d'orientation pour découvrir des métiers, on lui assure de pouvoir passer par une phase de pré-qualification et puis une qualification. Donc on assure un parcours. Après, il faut le convaincre, quoi. Parce qu'effectivement, les jeunes ont du mal à se projeter, donc se projeter à 2-3 ans... Lorsqu'on est sorti d'un système scolaire un peu en échec, c'est pas simple. Donc c'est tout le travail des missions locales et des organismes de formation d'arriver à motiver ces jeunes. Après, effectivement, certains passent par la case apprentissage. Ils peuvent faire des allers-retours. Hein. On passe du lycée, du collège. On peut être un moment à tâtonner. Après, on peut aller en apprentissage ou on peut aller en formation continue. Après, on peut... Vous voyez, c'est pas figé. Et puis... qu'on veut essayer d'inculquer aussi, si tu peux dire inculquer, c'est un peu dur, mais de mettre dans la tête des jeunes que la formation tout au long de la vie, ça commence déjà par la formation initiale réussie, quoi. Le niveau de votre formation initiale quand vous êtes quand vous sortez d'une première qualification, ça induit votre possibilité aussi de faire de la formation tout au long de la vie. Et ce qu'on voudrait vraiment, c'est que les jeunes se disent que c'est possible. D'où l'intérêt d'articuler formation entreprise et formation par exemple région. L'histoire commence à s'écrire, quoi. On a un jeune CAP chaudronnier qui est maintenant en BTS et qui va intégrer une école d'ingénieur prochainement. On avait aussi un BEP en mécanique productique qui va intégrer une école d'ingénieur. Donc on s'est attaché à se servir de l'apprentissage aussi comme ascenseur social, et ce qui permet aussi de faire des études à des jeunes qui rend la gratuité en fait des études, hein. Et donc ça aussi c'est important de le signaler.
Qu'est-ce qui reste à améliorer en Pays de la Loire encore?
Alors, il y a plein de choses à améliorer.
Plein de choses.
Quand ils travaillent. Non, il reste à améliorer, je pense, des choses autour de l'orientation, de l'accompagnement. Alors de l'orientation, oui, parce que si vous voulez, quand je vois moi les jeunes des Olympiades des métiers ou des meilleurs apprentis de France, on en a récompensé la semaine dernière, ces jeunes-là, ils ont eu la chance à un moment d'avoir un déclic, de pouvoir rencontrer un métier qui les a passionnés, qui les passionne, et d'oser dire je suis passionné par mon métier, je crois que c'est pas simple non plus. Et donc ces jeunes-là, ils ont eu cette chance d'avoir ce contact, ce déclic. Et moi je me dis que notre boulot, ça pourrait être que de faire qu'un maximum de jeunes aient ce déclic. Alors on peut dire que c'est le rôle de l'éducation nationale, c'est le rôle de ci, mais je crois que c'est le rôle de la société en entier, quoi, de créer de l'appétit pour un métier qui vous permettra de gagner votre vie, je l'espère. C'est pas le cas toujours d'ailleurs, c'est des jeunes très qualifiés qui ont des emplois relativement mal payés, je crois que ça c'est quand même dramatique. Donc en fait, il y a tout ce travail autour de l'orientation, il y a aussi le travail en apprentissage sur l'accompagnement du jeune par rapport au binôme de réussite qui est si vous voulez, entre l'employeur et le jeune, quoi. Parce qu'il faut trouver le bon employeur pour le bon jeune et s'adapter. Ce qu'on demande nous au centre de formation, et c'est leur boulot pour les prochaines années, c'est de prendre un jeune tel qu'il est et d'essayer de faire le meilleur mariage possible avec l'entreprise, quoi. trouve une entreprise qui lui convienne bien et qui puisse le faire grimper en compétences. Donc voilà, là je pense que l'apprentissage peut jouer aussi ce rôle-là. Et c'est pas le tout de trouver un contrat d'apprentissage, il faut aussi que ça convienne et qu'il n'y ait pas d'échec, qu'il n'y ait pas de démission en cours de route. Donc là, je crois qu'il y a un progrès à faire. Et puis, il y a un progrès à faire aussi pour rendre les deux voies de formation professionnelle, que ce soit la formation en lycée ou la formation en apprentissage, voire même en alternance, contrat de professionnalisation par exemple, de rendre de ces trois voies relativement équitables, quoi. Qu'il n'y ait pas des choix par défaut, qu'il n'y ait pas un choix parce que le jeune n'aille pas en apprentissage parce que la famille a besoin qu'il gagne sa vie, alors qu'il aurait préféré peut-être aller en lycée. Donc il faut aussi que la formation en lycée soit très accessible pour les jeunes. Et puis que le jeune qui a envie de passer plutôt du geste à la théorie et non pas de la théorie au geste, eh ben, il puisse aussi aller en voie d'apprentissage, mais en réussite et pas en voie de extrême, si vous voulez.
C'est pas très simple hein, dans le contexte actuel quand même, parce qu'on entend, j'ai l'impression, après corrigez-moi si je me trompe, qu'on entend de plus en plus parler de formation professionnelle, d'apprentissage, de formation professionnelle, parce que c'est des métiers qui ont une insertion professionnelle qui est favorisée. Du coup, ça marche pas forcément pour tout le monde. Ça, si vous parliez tout à l'heure, j'ai bien aimé de travailler aussi pour la passion et pas forcément pour le salaire. Malheureusement, le contexte actuel fait que le salaire, il faut bien l'avoir parfois au détriment de la passion. Donc
Oui, loin de moi l'idée de dire qu'on travaille pour la passion. Il fallait que la passion soit récompensée.
Non, mais c'est un vrai problème aujourd'hui. Non, c'est délicat pour beaucoup de gens, je pense.
Tout à fait, oui. C'est vrai que la perception du monde du travail, elle est déjà pas évidente du tout, parce que c'est vrai que les jeunes ont parfois, ont l'image aussi parfois de leurs parents qui ont été, par exemple, l'industrie a pâti de cette image-là, en fait, avec une industrie qui a souffert. Donc les parents ont tendance à ne plus envoyer leurs enfants dans l'industrie, puisque quand même le premier prescripteur, c'est quand même la famille en général, hein. Et donc avec une image de marque très dégradée des métiers de l'industrie, alors qu'il y a des belles carrières à faire encore, il y a beaucoup d'emplois dans l'industrie en Pays de la Loire encore, et pourvu que ça dure. Mais je crois qu'il y a aussi un remplacement de génération aussi dans l'industrie, donc il y a des postes ouverts, et je crois qu'il faut que les jeunes aillent vers ces carrières-là. Mais effectivement, il y a un travail d'attractivité, et puis, si vous voulez, si le jeune il se qualifie, il a une bonne formation et qu'on lui propose que des missions d'intérim, ben on le fidélisera pas, quoi. Donc il y a aussi un enjeu, je crois, pour les entreprises de faire des investissements sur la jeunesse. Je crois que quand vous prenez un jeune en apprentissage ou que vous recevez en stagiaire quand il est en lycée, ben je crois qu'il faut considérer ça comme un investissement sur l'avenir. Même si c'est pas dans votre entreprise qu'il restera, je crois qu'il faut vraiment investir le maximum pour que ce jeune, il ait la meilleure impression de l'entreprise possible au départ et qu'il puisse après, eh ben, y faire sa place et y donner aussi son savoir-faire. Mais il faut aussi qu'il reçoive, quoi. Ça doit marcher dans les deux sens et c'est pas quand même tout à fait le cas. Loin de là. Et je crois que là, il faut travailler. Alors nous, on s'attache à travailler avec même les entreprises qu'on aide. Au niveau aide à l'investissement, etc., on va tâcher aussi de s'attacher à, si vous voulez, à mettre pas une contrepartie, mais essayer de donner plus à des entreprises qui investissent dans l'avenir des jeunes, quoi.
Mais comment on fait pour conserver les jeunes qui sont formés sur le territoire, au sein même du territoire, et de favoriser l'insertion professionnelle sur le territoire? Parce qu'il y a des régions qui forment, mais qui ont du mal à garder justement les formés sur leur propre territoire.
Tout à fait. Alors là, si vous avez la solution, je suis assez preneuse. Effectivement, il y a la question du logement des jeunes quand même, qui est quand même importante. Il y a la question du logement. Si un jeune travaille, il faut qu'il puisse vivre aussi en dehors. Il faut qu'il puisse aussi, l'attractivité d'un territoire, c'est aussi la culture, etc., tout ce qui tourne autour. Il faut qu'il puisse avoir une vie sociale, quoi. Et puis, il y a la question aussi de la qualité du travail qui est offerte, quoi. Parce que le jeune qui est qualifié, par exemple, il a que l'embarras du choix aussi, hein, parfois. Donc, faut pouvoir capter ces jeunes et les garder, hein. Moi, j'ai pas de solution miracle, mais je crois que l'attractivité, elle est liée par rapport au job, mais on peut pas sortir le job du contexte de vie sociale. Et c'est vrai que c'est un vrai souci pour les apprentis, c'est-à-dire que les apprentis, ils ont assez peu de vie sociale, quoi, parce qu'ils n'ont pas trop le temps, quoi, entre l'entreprise qui est à un lieu, l'habitation qui est parfois un autre, et le CFA qui est aussi un autre lieu. Donc ils jonglent entre ces trois lieux. Et par exemple, ils ont assez peu de vie sociale, finalement.
Mais c'est intéressant, ça, parce que ça veut dire que quand on parle de formation, d'insertion, d'emploi, on n'est pas uniquement que dans le cadre du travail. Ça va bien au-delà de tout ça.
Tout à fait, oui. Tout à fait. D'ailleurs, on finance des actions éducatives dans les lycées pour ouvrir les jeunes à la culture, enfin à d'autres lutte contre les discriminations. Enfin, il y a plein de d'actions éducatives pour sortir, ouvrir la fenêtre un petit peu d'un jeune dans un lycée, donner les moyens de ça. Et on finance la même chose chez les apprentis, si vous voulez, aussi pour leur permettre d'avoir aussi une ouverture sur le monde et puis de comprendre le monde dans lequel ils vivent, de façon à pouvoir aussi faire des choix. Et leurs choix de vie, ils sont aussi liés à comprendre les contextes, etc. Donc voilà, on a aussi essayé de rapprocher au maximum les deux statuts, du jeune et du lycéen, aussi pour en faire des citoyens.
Sans escalier, j'ai grimpé à l'étage. La vie un livre dont il faut tourner les pages. Les cours c'était pas cubique, un QI élevé n'explique pas les bulletins d'un cancre chronique. J'ai arrêté l'école avant de la quitter. Hélas, en dessous de mes capacités, les plans qu'ils avaient pour nous, je les ai déjoués. T'as fait nous fait chier au risque d'échouer. De toute façon, on va pas se plaindre, nos parents se sont saignés. Au sommet, on sera pas plein, car on se fout d'être conseillé. Mon daron m'avait dit qu'existe et c'est
tirer des traits. Vivre les sacrifices de si près. Je sais à quoi tu sens ton secret. À notre âge, j'ai déjà les traits tirés. À force de tirer des traits. Vivre les sacrifices de si près. Je sais à quoi tu sens ton secret. À notre âge, j'ai déjà les traits tirés. À force de.
En vrai, les femmes n'aiment vraiment que leurs enfants. Moins tu le comprends, plus tu te morfonds. Tous les bons morflés, mes nuits blanches d'un divorce de morphée. Une vie montagneuse, des virages, des pics, des chutes et des mirages. Radeau cassé, on part à la nage du rivage. Garçon, en une décennie j'en ai vu défiler. Gros de frères sont difficiles à tirer. Je t'aurais prêté ma jambe, mes mestres au pied. Je t'ai donné la main, tu l'as escroqué. Atteindre l'âge des blessures sans cocard. Transmission de savoir se vider pour que d'autres puissent avoir. Pouvoir pardonner, j'ai tout donné. Mais les gens ne savent pas recevoir.
Tirer des traits, vivre les sacrifices aussi près. Je sais à quoi tu sens ton secret. À notre âge, j'ai déjà les traits tirés. À force de tirer des traits, vivre les sacrifices aussi près. Je sais à quoi tu sens ton secret. À notre âge, j'ai déjà les traits tirés. À force de.
De retour dans Ça vous concerne, après avoir écouté Oxmo Puccino en duo Oxlade Johnson. Revenons maintenant à notre sujet du mois, l'apprentissage et la formation professionnelle. Alors nous sommes toujours avec Sylvie Eslan, conseillère régionale en charge justement de l'apprentissage et de la formation professionnelle en Pays de la Loire. Voyons avec elle si le clivage enseignement général-enseignement professionnel existe toujours avec ces idées reçues du genre l'apprentissage c'est pour les élèves en échec scolaire. On écoute tout de suite Sylvie Eslan.
Mais on voit des belles réussites avec des jeunes qui étaient en échec scolaire parce que le système est différent, c'est tout. C'est pas. Moi, je dis pas qu'il y a pas de système qui prime sur l'autre, mais il y a deux façons de voir les choses et ça convient à l'un ou ça convient mieux à l'autre. Et je crois qu'il y a des jeunes. Il faut être quand même assez mature, je pense, pour pouvoir réussir dans l'apprentissage aussi, parce qu'on est très vite autonome et très vite un peu seul quand même, parce que forcément dans un des trois lieux on est seul. Donc que ce soit l'entreprise, la formation ou chez soi, enfin on a vite de l'autonomie à acquérir. Donc un jeune qui manque un petit peu de maturité, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne solution et si on l'envoie à la réussite, j'en sais rien.
C'est vrai que c'est peut-être encore malgré tout une habitude, je sais pas, ou un réflexe en tout cas pour certains parents qui ont leur enfant qui peut-être n'y arrive pas forcément dans le cursus généraliste. Le réflexe, ça va être faire un apprentissage ou une formation professionnelle. C'est pas une voie de secours.
Non, faut vraiment se dire que c'est une voie de réussite et qu'il faut être exigeant. Si c'est possible, mais exigeant sur la qualité de la formation dans l'entreprise. Parce que on apprend autant dans l'entreprise que dans le CFA. Il faut vraiment se dire, dans l'entreprise, on ne fait pas de la simulation, on n'est pas sur de l'observation et du faire à côté, quoi. On est vraiment sur apprendre des compétences. On évalue aussi bien ce qui se passe. La connaissance acquise dans l'entreprise, on la répète pas au centre de formation d'apprentis, si vous voulez. Elle est considérée comme acquise. Donc effectivement, la qualité du maître d'apprentissage, et nous, on donne des aides aux maîtres d'apprentissage selon le type de jeune qu'ils embauchent. C'est-à-dire que quand on prend un jeune plutôt en difficulté, ben on donne en majeur une prime aux employeurs de façon à ce qu'ils s'occupent encore mieux du jeune, si je peux dire. Hein. Et donc on a ce besoin de qualité. Et je veux dire que si le jeune, les parents qui sont en train de chercher un contrat d'apprentissage pour leur jeune, Il faut qu'ils soient exigeants, je pense, sur qu'ils s'adressent à leur CFA, qu'ils travaillent, qu'ils disent qu'est-ce que vous pensez de cet employeur-là, à l'employeur lui demander comment il s'occupe du jeune, quelle est la progression qu'il met en place, quels sont les résultats aux examens de ces jeunes, etc., pour voir s'il y a une vraie qualité, parce que c'en est fini, nous on veut pas que l'apprenti soit de la main-d'œuvre à bon marché, il en est hors de question, hein, vraiment.
J'imagine que pour un jeune, c'est pas forcément évident, ou alors le choix peut être rapidement fait entre une formation professionnelle ou de l'apprentissage avec une meilleure insertion professionnelle qu'un cursus parfois généraliste avec, quand on voit par exemple ceux qui sont formés à l'université, qui sortent avec un master et puis qui à l'issue n'arrivent pas à trouver de travail. J'imagine que le choix doit être difficile à faire quand même.
Oui, le choix n'est pas évident. Et puis il y a ces questions de maturité et puis de connaissance du monde que vous avez. C'est vrai que un jeune qui habite dans une grande ville, qui a beaucoup de choses à apporter de sa main, je pense qu'il a un peu plus de facilité à avoir des métiers, à avoir des choses. Et encore, c'est peut-être un peu un schéma aussi que j'ai dans la tête, mais je pense qu'un jeune qui est un petit peu plus isolé, il voit par les lorgnettes de ses voisins, amis, connaissances, etc. Et parfois, le monde est un peu fermé, quoi. Donc c'est pour ça que nous, par exemple, les Olympiades des métiers, on s'en sert vraiment d'une vitrine des métiers, parce qu'on veut que ça serve de plateforme d'orientation, si vous voulez, que les jeunes, ils viennent voir, ils voient des métiers, et puis s'identifier à un moment ou à un autre, et puis que ça les amène à cheminer, à s'interroger, et puis à essayer de chercher un emploi. Parce que c'est vrai que c'est quand même, le choix est pas facile, et alors, il s'avère que plus on est qualifié, quand même, les statistiques le prouvent, plus à terme, on a de chances de s'insérer, dans le sens où je crois que c'est surtout des questions de compréhension du monde, quoi, un petit peu de compréhension des choix, et quand on a un petit bagage un petit peu plus important, on est plus à même de faire des choix, quoi. Mais je pense que c'est pas une théorie, je pense à 100% valide, parce que le jeune qui est en apprentissage, il connaît bien aussi les codes de l'entreprise, il sait comment ça fonctionne, il sait comment s'adresse à un patron, il sait ce dont on a besoin dans l'entreprise, il faut quelqu'un qui soit réactif, etc. C'est quelqu'un qui connaît ce monde-là. Et donc, quand il va à un entretien d'embauche, c'est sûr qu'il a une certaine... Il est un petit peu favorisé parce qu'il sait à qui il s'adresse, quoi. Il sait dans quel monde il va, quoi.
Bon, en tout cas, pour essayer peut-être de bien informer les jeunes, parce qu'ils ont quand même une quantité astronomique d'informations, parfois au risque de s'y perdre aussi, vous leur conseillez quoi ?
Alors, il y a différents. Bon, il y a des logiciels qui existent. Hein, il y a des sites internet. Il y a meformer.org, par exemple, qui est un site qui est financé par la région, qui est peut-être pas, c'est pas hyper ludique, mais je pense que c'est intéressant. On découvre toute une palette de métiers. Il y a des petits films sur les métiers, etc.
Meformer.org, c'est ça.
Meformer.org. Il y a aussi le site monorientation.com, je pense, qui est le site de l'éducation nationale, qui tourne autour de l'orientation. Il y a aussi tout ce qui est porte ouverte dans les établissements. C'est vraiment la pleine période en ce moment, tous les lycées professionnels, les CFA font des portes ouvertes. Je crois qu'il faut aller voir sur place, il faut se renseigner.
Discuter avec les élèves aussi.
Il y a des salons. Mais le salon, il faut pas y aller en consommateur de papier. Il faut y aller en ouvrant grand ses oreilles et poser les bonnes questions sur les contenus et toujours travailler sur le lien formation-emploi, quoi. Aller chercher les organismes qui vous offrent de la formation en se disant, vous faites telle formation. C'est quel métier qu'il y a derrière, quels sont le taux d'insertion de vos jeunes, par exemple, vos jeunes diplômés, qu'est-ce qu'ils trouvent, dans quel domaine, etc. Je crois qu'il y a plein de questions comme ça à poser. Pour savoir, et aussi il y a des enquêtes aussi à faire autour de vous, quoi. Les jeunes ont des sphères quand même de connaissances en se disant un tel dans sa famille, il fait quel métier, comment, etc. Je crois qu'il y a des choses assez simples sur lesquelles on travaille. Et puis bon, même dans les lycées, il y a des centres d'information et d'orientation quand même, et où il y a aussi pas mal d'informations, et je crois qu'il faut pas hésiter à aller voir les CIO.
Les meilleurs conseils, c'est soyez ouverts et curieux surtout.
Soyez ouverts et curieux et attentifs, quoi.
Vous l'aurez compris, vous, parents ou jeunes qui nous écoutez, le meilleur des conseils que l'on puisse vous donner, c'est de récupérer un maximum d'informations. Aller à la rencontre des gens, se faire une idée de la filière, du métier qui vous intéresse, n'hésitez pas. Plus vous aurez d'infos et plus vous serez capable de décider. Bref, soyez curieux. Voilà, ça vous concerne. C'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de Fréquence Sillé au www.fréquence-sille.org, rubrique « Ça vous concerne ». À bientôt.